Génération Passepartout, épisode 15. Aujourd'hui, on jase chaussures pour bébés et pour enfants. C'est parti! Bienvenue sur Génération Passepartout, un podcast pour les parents, en devenir ou en pleine dent. Je suis Audrey Sénéchal, fondatrice de Petit Pas Portail Parents, au service de l'épanouissement des petits comme des grands. Repenser la naissance autrement, célébrer la petite enfance comme il se doit. Mieux comprendre pour aligner vos choix, voilà ce qui vous attend. Pour une parentalité engagée et décomplexée, sans verser dans la culpabilité. Génération Passepartout, ta référence pour tout ce qui touche la périnatalité, la parentalité et la petite enfance. Bonne écoute! L'information contenue dans ce podcast ne remplace en aucun cas les conseils professionnels d'un médecin, d'une sage-femme ou tout autre professionnel de la santé. Il ne vise pas à donner de conseils précis ni individualisés et ne devrait pas être interprété de la sorte. Vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé qualifié pour vos questions médicales personnelles avant de faire des choix éclairés. L'offre en matière de chaussures pour enfants est assez vaste, merci. Puis la gamme de prix l'est tout autant. C'est un peu exaspérant, même sachant que avant l'âge de 3 ans, les pieds de l'enfant vont grandir en moyenne d'un demi-point tous les 2-3 mois. Pas si facile de s'y retrouver en plus puis de faire un choix sensé, d'autant plus quand les recommandations des vendeurs de chaussures sont loin d'être établies sur des fondements très solides, même si vous vous retrouvez à magasiner dans une boutique spécialisée pour enfants. Puis le principal problème avec les chaussures pour enfants, c'est qu'elles sont fabriquées pour la grande majorité avec des matériaux rigides qui ne respectent pas la forme du pied de l'enfant ou encore qui proposent toutes sortes de technologies comme des supports d'arches plantaires ou des talons surélevés. Des caractéristiques qui ont été pensées pour corriger ou prévenir des problèmes de croissance ou des problèmes à la marche. Mais jusque-là, à moins d'indications contraires, bébé est en santé, la croissance de ses jambes et de ses pieds est loin d'être terminée. Alors pourquoi on voudrait le protéger de problématiques qui sont inexistantes ou encore de particularités qui ne posent aucun problème? Et là, parlant de croissance, le corps va être en constante évolution, en constante croissance jusqu'à la fin de l'adolescence. Les os vont s'allonger, vont changer de forme, les muscles se renforcent aussi. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la chaussure qui doit modeler la croissance, mais plutôt les contraintes qui vont être appliquées aux structures osseuses, aux structures musculaires pendant les activités de l'enfant. Donc si on tente de prévenir l'apparition de défauts ou encore de corriger une composante qui ne devrait pas l'être, mais on se trouve à entraver le cours normal de la croissance de l'enfant. Puis c'est certainement pas ce dont vous avez envie. D'ailleurs, c'est bien démontré dans certaines études que le port de chaussures chez l'enfant va nécessairement avoir des effets sur sa biomécanique. Donc, on va observer que le port de chaussures peut ralentir la cadence, peut augmenter l'attaque du talon, donc la vitesse de la pose du talon au sol, il peut y avoir une plus grande force d'impact au sol également. C'est des caractéristiques qui sont pas souhaitées chez l'adulte, mais qui ne le sont pas chez l'enfant non plus. Donc, il n'y a aucun de ces effets qui est souhaitable, ni même bénéfique pour le développement de l'enfant. Puis j'en ai parlé en début d'épisode, mais la principale problématique, c'est ce qu'on retrouve sur le marché actuel. Donc, des chaussures étroites, des chaussures rigides avec un talon surélevé ou encore une arche intégrée. Ces caractéristiques-là interfèrent avec la croissance saine du pied, voire même avec le développement moteur global. Puis les experts s'entendent presque tous pour dire que c'est préférable de laisser les enfants marcher nu-pieds ou encore avec des chaussures qui sont suffisamment souples pour ne pas limiter le mouvement du pied de l'enfant. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé par l'Association américaine et l'Association canadienne de pédiatrie. Puis là, je vais vous inviter on va se rappeler tous ensemble à quoi ça sert une chaussure, hein, parce qu'on a peut-être même oublié la fonction première de la chaussure, soit son rôle de protection. Donc, la fonction première de la chaussure, c'est de protéger du froid et des surfaces qui seraient plus arides. Un point, c'est tout. Le reste, ça appartient pas mal plus aux conventions sociales qu'aux réels bienfaits de la chaussure. Donc, maintenant qu'on sait que les matériaux rigides qui respectent pas la forme du pied de l'enfant sont pas favorables, qu'est-ce qu'on devrait vraiment regarder? Qu'est-ce qu'on devrait rechercher comme caractéristiques pour baser notre décision, finalement, au moment de l'achat? Là, vous allez voir, on va garder ça assez simple avec quatre caractéristiques principales à rechercher. Le confort, la flexibilité ou la souplesse, la légèreté et le profil bas de la chaussure, c'est-à-dire un profil suffisamment bas qui permet de rester près des sensations du sol. Si on commence par le confort d'abord. Donc, si vous observez différents modèles de chaussures, autant pour les enfants que pour les adultes, il y a des bonnes chances que vous constatiez que l'avant de la chaussure est relativement étroit. Trop étroit même pour laisser suffisamment d'espace aux orteils. Ce qu'on va rechercher alors, c'est plutôt un fit dit anatomique. Donc, une chaussure qui va respecter la forme naturelle du pied, qui va respecter sa largeur et qui, naturellement, va permettre à l'enfant de bouger librement ses orteils sans être restreint. Donc, on ne veut pas que les orteils soient squeezés, soient entassés les unes par-dessus les autres, ou encore, quand on tente de bouger les orteils, bien, rapidement, on vient buter contre le fond de la chaussure ou contre le plafond, là, le haut de la chaussure, finalement. Puis là, bien, vous comprendrez que confort ne rime pas nécessairement avec design et esthétisme. Donc, c'est souvent pas les souliers qu'on trouve les plus beaux ou les plus attirants visuellement qui respectent cette notion-là de confort et de fit anatomique. Autre caractéristique à surveiller, c'est le choix des matériaux et la flexibilité, la souplesse de la chaussure. On vous a peut-être, si vous êtes allé en boutique spécialisée pour enfants, on vous a peut-être même suggéré la fameuse bottine pour bébé. Donc, la bottine qui a des parois solides avec une semelle assez épaisse, rigide, où la cheville est maintenue par un support haut et assez ferme aussi. On vous a sûrement même vanté ses mérites, comme quoi elle est beaucoup plus durable, qu'elle supporte bien le pied et la cheville de bébé, ce qui l'aiderait plus rapidement dans l'apprentissage de la marche. Bien, ici, c'est pas le cas. Premièrement, la rigidité du soulier n'a rien à voir avec sa durabilité. Donc, on peut avoir des matériaux durables, mais qui ont quand même la caractéristique d'être souples et flexibles. Puis, deuxièmement, bien, maintenir fermement le pied dans une structure rigide pour diriger un mouvement qui devrait être naturel, bien, ça n'a rien de souhaitable et ça n'aidera pas l'enfant à marcher plus rapidement non plus. C'est pour ça qu'on recommande plutôt choisir une chaussure qui va être flexible, qui va être souple, qui ne monte pas trop haut à la cheville et qu'on pourrait plier et tordre de tout bord, tout côté. Pourquoi? C'est ce qu'on souhaite finalement parce que des muscles qui vont être contraints à trop de rigidité, trop de fermeté, bien, c'est des muscles qui n'ont pas la capacité de se renforcer. Donc, un pied libre, un pied mobile, c'est vraiment ça qui va permettre au pied de se développer, de renforcer ses muscles stabilisateurs et par le fait même de favoriser les apprentissages moteurs qui vont suivre, comme courir, comme sauter, donc toutes les nouvelles habiletés motrices qui vont s'ajouter à la marche par la suite. Maintenant, troisième caractéristique recherchée, une interface qui permet de sentir le sol et de stimuler le pied. Puis là, l'interface ici, bien, on parle de la semelle, hein? Donc malheureusement, plusieurs chaussures vont avoir un talon ajouté, un talon surélevé, souvent, en plus, même un petit coussinet absorbant au niveau du talon. Et là, c'est la combinaison parfaite pour couper l'enfant de toute sensation essentielle entre son pied et le sol. Hein? Donc, vous comprendrez que c'est loin d'être l'idéal. couper le pied de ses sensibilités, ben c'est l'empêcher finalement de s'adapter en conséquence à la surface de contact, puis l'empêcher de développer ses mécanismes de protection. Donc, si l'enfant marche sur le gazon ou encore sur un plancher de béton ou dans le sable, bien naturellement, les réactions, l'adaptation au niveau de son pied ne sera pas la même. Mais si l'enfant n'a pas de contact et pas près de ses sensations du sol, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir une réaction adéquate au niveau des muscles du pied et de la cheville. Puis, à bien y penser, le fait d'avoir un talon surélevé sur un format minuscule de chaussure, c'est un peu l'équivalent de faire porter des talons hauts à un enfant. Hein? Mais c'est vrai que c'est attirant. C'est sûr que les enfants un petit peu plus vieux qui vont dans un magasin de chaussures puis qu'on voit ou encore qui ont vu leurs amis avec des souliers, avec une semelle qui allume dans le noir ou une petite lumière qui flash à chaque pas, c'est super attirant pour un enfant, mais c'est un passe-du-bien. Donc, pour avoir intégré la technologie de la petite lumière, il a fallu surélever le talon, ajouter une composante. Donc, c'est pas l'idéal. Bref, on recherche idéalement une chaussure qui est basse, avec une différence de hauteur entre les orteils et le talon qui est aussi basse que possible aussi, ce qui va permettre aux pieds de rester près des sensations du sol. Mais là, je vous entends déjà, si vous vous dites « oui, mais moi, mon enfant a les pieds plats, qu'est-ce que je fais? » Puis là, ben, il y a fort à parier que ce soit le cas de votre tout-petit parce que la majorité des bébés, des enfants vont avoir les pieds plats. Puis, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Parce qu'en fait, en début de vie, la grande majorité des enfants vont avoir les pieds plats, voire même les pieds ronds, les pieds dodus. C'est parce qu'il y a un coussinet de gras qui vient combler l'arche plantaire au centre du pied. Puis ça, c'est vrai au moins jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc ensuite, l'arche plantaire va se former graduellement selon le degré de stimulation du pied, puis en fonction d'un certain facteur génétique aussi. Donc, vous comprendrez que si on met une chaussure rigide avec une semelle épaisse, le degré de stimulation de l'arche plantaire ne sera pas très grand. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour l'enfant de venir créer, de venir former son arche plantaire avec les petits muscles de son pied. Il ne faut pas oublier non plus que c'est très rare que les pieds plats soient la cause de douleurs ou de problèmes à la marche. Puis, il semblerait même que les pieds plats soient davantage observés chez les adultes qui ont porté des chaussures rigides dès la petite enfance. C'est quand même fascinant comme tout est dans tout. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est nécessaire finalement d'opter pour une chaussure avec un support d'arche? Puis là, ben, vous aurez compris que ma réponse, c'est non. Mais comment on fait pour savoir si les chaussures en ont un ou pas? Donc, si vous êtes en train de magasiner, que vous observez les caractéristiques des différentes chaussures, juste en glissant vos doigts dans la chaussure, si vous sentez une petite bosse ou une petite pente préformée au milieu de la semelle, c'est qu'il y a bel et bien un support d'arche. Donc, la recommandation ici, c'est de faire l'achat d'une chaussure dans laquelle l'enfant est confortable et où il ne sentira pas de point de pression sous son pied. Donc, si on résume les caractéristiques qui devraient orienter votre décision au moment de l'achat d'une chaussure pour bébé ou pour enfant, on recherche une chaussure qui est confortable, donc qui respecte le fit anatomique ou la largeur du pied de l'enfant. On cherche aussi une chaussure qui est flexible, qui est souple pour solliciter les muscles du pied et améliorer sa stabilité. Et on recherche aussi une chaussure qui est basse et légère, de façon à ce que l'enfant puisse sentir le sol et que son pied s'ajuste en conséquence. Donc, le modèle idéal se plie, se tord dans tous les sens, est super léger et permet à l'enfant de bouger ses orteils librement, en plus d'être confortable. Puis, contrairement à ce qu'on peut nous laisser croire, la chaussure idéale est assez minimaliste et ne coûte pas les yeux de la tête. Donc, vous aurez compris que des petites ballerines ou des souliers d'eau peuvent amplement remplir ces caractéristiques, en plus d'assurer la fonction première des chaussures, soit celle de protéger le pied, sans trop intervenir sur la croissance de l'enfant. C'est votre portefeuille qui va vous remercier quand vous aurez à magasiner une nouvelle paire de chaussures dans 3-4 mois. Bon, maintenant, c'est bien beau connaître les caractéristiques de la paire de chaussures idéale, mais à partir de quel âge on devrait chausser nos bébés? Une chose est sûre, c'est que peu importe son âge, on souhaite laisser son enfant pieds nus le plus longtemps possible. Puis ça, c'est vrai qu'il ait fait ses premiers pas ou non. En fait, rien ne vaut le pied nu quand l'environnement s'y prête, bien évidemment. Donc, à l'intérieur de la maison, pieds nus. Sur le gazon, dans votre cour l'été, pieds nus. Dans votre carré de sable, pieds nus aussi. À l'intérieur du local à la pouponnière, pieds nus. Donc, chaque surface représente une nouvelle sensation, un nouvel apprentissage et une nouvelle façon de percevoir son corps dans l'espace pour nos tout-petits. Sur une surface hostile, par exemple au parc, où il pourrait y avoir des éclats de vitres dans le gazon ou dans le sable, ou encore par temps froid, bien entendu, on va utiliser la chaussure pour jouer son rôle de protection. En d'autres temps, à la maison, voire même à la garderie, c'est recommandé de laisser l'enfant pieds nus. Puis si jamais vous laissez votre enfant en pied de bas, par temps plus frais par exemple, assurez-vous qu'il soit anti-dérapant. Ou encore, privilégiez là, les petits chaussons souples anti-dérapant. Particulièrement si votre tout-petit est à l'étape de l'apprentissage du ramper ou de la marche. On va vouloir qu'il y ait une prise avec ses pieds au sol pour favoriser sa stabilité, pour favoriser son déplacement et son équilibre, par exemple, quand on parle de se lever debout ou de la marche. C'est donc pas du tout nécessaire de faire porter des souliers à l'intérieur à un bébé qui commence à se lever ou qui apprend à marcher. Parce que je le rappelle encore et encore, paraît que c'est bon la répétition, mais marcher pieds nus, ça permet aux petits muscles du pied de travailler, de se renforcer, mais aussi de développer la stabilité de l'enfant, son équilibre et sa coordination. Maintenant, velcro ou lacet, on en pense quoi? Ici, ça dépend surtout d'où votre enfant est rendu dans ses apprentissages. Donc, si on souhaite favoriser l'autonomie de l'enfant, et qu'il puisse enfiler, retirer ses souliers seuls ou avec un minimum d'aide, il peut être préférable d'opter pour les velcros, par exemple autour de l'âge de 2-3 ans. Mais il n'y a aucune contrainte à opter pour les lacets à cet âge-là non plus. Par contre, vous allez devoir compléter la tâche en lassant les chaussures. Puis à partir de 5 ans environ, l'apprentissage des lacets va représenter une super belle occasion de développer la motricité fine de l'enfant. Évidemment, vous allez avoir besoin de modeler plusieurs fois la tâche pour que votre enfant puisse la réussir à son tour. Puis n'oubliez pas que si vous enfilez vos propres chaussures sans les détacher, alors que vous demandez à votre enfant le contraire, c'est contre-productif. N'oubliez pas que vous êtes son modèle au quotidien. Dans le segment coup de pouce, je vous propose un petit truc pour savoir si la chaussure que vous avez choisie est bel et bien adaptée pour votre enfant. Donc, au-delà de toutes les caractéristiques dont j'ai parlé plus tôt concernant les chaussures, je vous invite à observer d'abord le comportement de votre enfant quand il est pieds nus. Donc, vous observez comment il marche, comment il passe de la position assise à quatre pattes, par exemple, ou encore de la position à genoux à debout, comment il monte les escaliers, comment il se débrouille en courant, en sautant, si c'est le cas. Puis, vous lui faites refaire ensuite les mêmes activités, les mêmes choses avec ses chaussures. Et il n'y a absolument rien qui devrait changer, finalement, dans sa posture, dans son agilité, ni dans sa démarche. Donc, son exécution devrait être la même pieds nus versus avec la chaussure. Bien évidemment, ça s'applique peut-être plus aux enfants qui ont déjà acquéri l'étape de la marche, finalement, parce que si on pense aux bébés qui sont en mode apprentissage et qui ne se déplacent pas encore, ça se peut qu'au moment où on leur mette les chaussures dans les pieds, qui se sentent un peu comme des astronautes en apesanteur et que ça change légèrement leur démarche. Donc, une fois l'acquisition, l'apprentissage de la marche acquis, il ne devrait pas y avoir de différence entre la démarche pieds nus et la démarche avec une chaussure. Alors voilà! Dans le segment coup de cœur, maintenant, je vous parle de la chaussure pour enfants de la Clinique du coureur. La Clinique du coureur, c'est un organisme de formation continue pour les professionnels de la santé qui est maintenant une référence mondiale en prévention des blessures en course à pied. Puis, au cours des 5 dernières années, la Clinique du coureur a accompagné le processus de conception d'une chaussure qui est spécialement destinée aux enfants. Donc, chaque détail a été pensé pour offrir sur le marché un modèle qui n'est pas juste visuellement attrayant, mais qui rassemble toutes les caractéristiques essentielles pour assurer le bon développement du pied de l'enfant à un prix qui est plus que concurrentiel. Donc, on retrouve entre autres le fit anatomique dont on parlait plus tôt pour respecter la forme naturelle du pied, une semelle mince, une semelle plate qui est dépourvue de toute technologie d'absorption pour ne pas entraver la stimulation du pied en contact avec le sol. Et finalement, des matériaux de qualité pour assurer la durabilité de la chaussure. Finalement, si j'en parle ici dans le segment coup de cœur, c'est aussi parce qu'il s'agit d'un projet philanthrope où tous les profits sont versés à des causes caritatives. Donc, je vous laisserai le lien vers les informations concernant la chaussure pour enfants dans les notes de l'épisode. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère que tu as bien apprécié. Alors, n'hésite pas à t'abonner et surtout à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée parce que ça fait une vraie différence pour faire découvrir le podcast à tous les parents, en devenir ou en plein dedans. Merci pour ton écoute.